pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, c'est un immense malentendu qui nous cause bien des torts. Non, nous, les humains, ne sommes pas une espèce à part. Nous sommes des mammifères. Comme les bovins, les singes, les baleines et les chauves-souris, nous allaitons nos petits, nous avons un tube digestif complet et nous avons un sang rouge et chaud. 98% de notre ADN est commun avec le chimpanzé. Alors, au nom de quoi maltraitons-nous nos semblables? Qu'est-ce qui légitime l'élevage intensif, les spectacles avec des animaux sauvages ou encore l'expérimentation animale? Dès le 19e siècle, le naturaliste Charles Darwin démontrait que la différence de conscience entre l'homme et les autres animaux n'est pas une question de nature, mais de degré. Depuis, les études scientifiques se succèdent et prouvent que les animaux non humains sont capables d'aimer, de communiquer, de réfléchir et de s'entraider. Partout dans le monde, la question du droit des animaux évolue. Petit tour d'horizon dans cette émission.
C'est pas du vent sur RFI.
La France, comme les deux tiers des pays du monde, a adopté de nombreuses lois pour protéger les animaux non humains, mais elle est loin d'être la plus avancée dans ce domaine, d'où l'initiative lancée la semaine dernière par 23 associations et une cinquantaine de personnalités, un référendum d'initiative partagée sur la cause animale. Bonjour Hugo Clément.
Bonjour.
Vous êtes un journaliste engagé pour la protection de l'environnement et pour la cause animale. Vous avez fait plusieurs reportages pour dénoncer les méthodes des élevages intensifs de volailles et de cochons. Vous avez publié « Comment j'ai arrêté de manger les animaux » aux éditions du Seuil. Et vous êtes l'un des porte-parole de cette initiative. Alors expliquez-nous tout d'abord en quoi consiste un RIP.
Un référendum d'initiative partagée, c'est un outil qui existe dans la Constitution depuis quelques années et qui permet à des citoyens de soumettre un projet de loi au référendum s'ils obtiennent suffisamment de soutien de la part des parlementaires. Donc, il faut réunir 185 parlementaires, députés ou sénateurs, et 10% du corps électoral, donc 4 700 000 citoyens inscrits sur les listes électorales. Et à ces deux conditions, le projet de loi qui est porté par les citoyens est soumis au référendum et donc toutes les Françaises et tous les Français sont appelés à aller voter pour ou contre ce projet de loi un dimanche à l'issue du processus.
Alors dans ce projet de référendum, vous avez inscrit 6 mesures.
Oui, le projet de loi qu'on propose comprend 6 mesures très fortes pour améliorer le bien-être des animaux en France. On propose l'interdiction de l'élevage en cage à partir de 2025. On propose la sortie de l'élevage intensif avec un moratoire immédiat sur la construction de tout nouvel élevage. Les nouveaux élevages devront proposer un accès à l'extérieur aux animaux et on pose un principe d'interdiction à horizon 2040 pour les élevages qui ne proposent aucun accès à l'extérieur pour les animaux. On propose également d'interdire les spectacles qui mettent en scène des animaux sauvages dans les cirques, dans les delphinariums. On propose d'interdire l'élevage des animaux pour leur fourrure, par exemple les visons qui sont des animaux aquatiques et qu'on enferme dans des cages sans accès à l'eau, dans une promiscuité extrême, simplement pour fabriquer des manteaux de luxe. Ça, on propose d'arrêter ces pratiques-là. On propose également l'interdiction de la chasse à courre, du déterrage de renards et de blaireaux et des chasses dites traditionnelles qui consistent par exemple à coller des oiseaux avec de la glu sur des branches, donc des pratiques archaïques qui sont déjà interdites dans beaucoup de pays européens et qu'on continue nous à autoriser. Et enfin, on propose d'interdire l'expérimentation sur les animaux, notamment sur les chiens, quand il existe des méthodes alternatives qui fonctionnent.
Alors, qui vous soutient aujourd'hui ?
On est une coalition très très large de citoyens qui viennent de tous les horizons. Il y a plus d'une vingtaine d'associations, on est même au-delà de ce chiffre-là, donc de très nombreuses associations qui défendent la question animale, des dizaines de personnalités issues du monde des médias, issues du monde de l'entreprise, issues du monde artistique. Et puis, on commence à avoir plusieurs dizaines de parlementaires qui se manifestent pour soutenir ce référendum d'initiative partagée et lui permettre de voir le jour. Donc, on représente la société civile qui n'est pas entendu sur cette question du bien-être animal. Il y a un décalage énorme en France entre ce qu'attend l'opinion publique, puisque les 6 mesures que je vous ai citées sont très majoritairement soutenu par l'opinion publique, à plus de 80% d'opinion favorable. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le cas qu'on soit de gauche, de droite, du centre, qu'on habite en ville, qu'on habite à la campagne, le soutien pour ces mesures est massif. Et donc, il y a un décalage très fort entre ce qu'attend l'opinion publique et ce que proposent les responsables politiques. La réponse politique est quasi nulle sur la question animale. Ça fait des années que les gouvernements se succèdent et ne font rien ou presque rien sur cette question-là. Et il est temps que la France rattrape son retard sur la question animale, puisqu'on est le plus mauvais élève de l'Europe. Les spectacles avec animaux sauvages sont déjà interdits dans beaucoup de pays européens. On continue à les autoriser. Toutes ces choses qui sont rejetées par l'opinion publique, qui sont déjà interdites par nos voisins et qui sont des pratiques cruelles pour les animaux. Il n'y a aucune raison qu'on continue.
Alors pour l'instant, il n'y a eu qu'un référendum d'initiative partagée. Hein. C'était pour empêcher la privatisation du groupe Aéroport de Paris. Mais il n'est pas arrivé au bout, faute de signatures. C'est vrai que 4,7 millions de signatures, c'est beaucoup en seulement 9 mois.
C'est énorme, 4 700 000 signatures. Effectivement, le référendum qui concernait la privatisation des aéroports de Paris n'a pas pu avoir lieu parce qu'ils ont recueilli 1 500 000 signatures. Mais c'est déjà énorme, 1 500 000 signatures. C'est déjà un succès, je trouve, d'arriver à réunir autant de gens sur cette question-là. Mais ça a quand même fait bouger les choses puisqu'on a vu que ce projet, pour l'instant, est en pause, il me semble, et peut-être sera abandonné. Donc nous, on a bon espoir d'arriver à réunir ces 4 700 000 signatures parce que la question animale, c'est quelque chose qui tient beaucoup à cœur des Françaises et des Français, on le voit dans toutes les études qui sont faites, et qui est un sujet transpartisan. Donc on a bon espoir d'y arriver. On a déjà presque 300 000 personnes qui sont inscrites sur notre site pour participer à cette récolte des signatures, pour participer à cette mobilisation. Donc on est en train de constituer une armée de bénévoles qui a envie que les choses bougent et qui va se consacrer à fond à ce référendum.
Il y a des endroits du monde où la consommation de viande se développe rapidement, par exemple en Afrique. Pour l'instant, c'est l'une des plus faibles au monde, avec seulement 15 kilos par habitant et par an, contre en gros 35 kilos au niveau mondial. Mais en Afrique, la demande monte en flèche, en particulier dans les villes, et là non plus, on ne parle pas de bien-être animal. Vous comprenez que c'est un sujet qui peut heurter peut-être une partie de notre auditoire ?
Non, alors déjà, notre initiative concerne la France et on s'adresse aux Françaises et aux Français. On n'a certainement pas la prétention d'expliquer aux habitants de pays africains ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils ne doivent pas faire. Et ça, c'est très important parce que je ne veux surtout pas être dans une posture où je vais expliquer aux gens qui ne sont pas dans mon pays comment se comporter. Pour répondre à votre question, la cause humaine et la cause animale, elles sont liées. C'est la même cause. C'est Lamartine qui disait « on n'a pas un cœur pour les animaux et un cœur pour les humains, on a un cœur ou on n'en a pas ». Et je trouve que cette situation est très vraie. On est en train de vivre un effondrement de la biodiversité, un effondrement biologique qui va avoir et qui a déjà des conséquences sur la survie même de l'espèce humaine. Et pour parler de l'Afrique, parce que moi je suis allé en Afrique beaucoup, dans beaucoup de pays africains, je suis notamment allé au Congo plusieurs fois pour faire des reportages sur le problème d'insécurité alimentaire qui règne au Congo, particulièrement dans la province du Kasaï, qui est touchée depuis des années par une famine très très importante avec des dizaines de milliers de personnes qui meurent de faim. Pour sauver les gens qui meurent de faim, on ne leur donne pas de la viande. Et on ne leur donne certainement pas de la viande qui provient d'élevage intensif. Les distributions qui sont faites, c'est des produits de première nécessité qui permettent aux gens de survivre. C'est des légumineuses, c'est de la farine de manioc, c'est de l'huile, c'est du sel, c'est des denrées qui permettent aux gens de survivre. Et l'industrie de la viande au niveau mondial participe à la famine et participe à affamer des populations. Pourquoi ? Parce que l'industrie de la viande monopolise 70% de la surface agricole mondiale. Et ces 70% de surface agricole mondiale, ils ne sont pas destinés aux pays les plus pauvres de la planète. Ils sont destinés aux pays riches. Les Français, ils mangent en moyenne 86 kilos de viande par an et par personne. En Afrique, la moyenne, c'est 15 kilos. Donc, qui consomme aujourd'hui l'écrasante majorité de la viande issue de l'élevage intensif ? Ce sont les pays riches. Ce sont les pays occidentaux. Et pour pouvoir fournir cette viande aux pays riches et aux pays occidentaux, on affame une partie du monde qui n'a pas les moyens d'acheter ces produits-là.
Et bien on va suivre de près donc ce référendum d'initiative partagée sur la cause animale. Merci Hugo Clément.
Merci à vous. Et si je peux juste ajouter quelque chose, il y a aussi un comportement de l'industrie de la viande occidentale vis-à-vis de l'Afrique qui est absolument déplorable. C'est-à-dire que les déchets de l'industrie de l'élevage en Europe et en France, par exemple les poules pondeuses en fin de carrière qui partent à l'abattoir et dont personne ne veut sur le marché français, beaucoup de ces poules pondeuses partent en Afrique, congelées dans des grandes villes africaines et sont servies en Afrique. Donc la viande que les Français ne veulent pas, que l'industrie française ne veut pas, on l'envoie vers les pays les plus pauvres de la planète. Et ce comportement-là, moi je le trouve déplorable. C'est-à-dire qu'on estime qu'il y a certains produits qui ne sont pas bons pour nous, donc on l'envoie en Afrique. Il faut sortir aussi de ces comportements. Ce n'est pas possible de continuer comme ça.
Et ce sont des produits qui sont subventionnés en plus par la politique agricole commune. Donc, quand ils arrivent sur le marché, ils sont très peu chers et ça concurrence évidemment la production locale. Merci beaucoup.
Merci. Et pardon, et c'est plus.
Ouais.
Vous n'êtes pas obligé de le mettre dans votre émission, mais moi, je suis allé beaucoup en Afrique dans les reportages. Et ce qui m'a frappé, c'est que le rapport à l'animal d'élevage, le rapport par exemple au poulet ou au cochon, est beaucoup plus respectueux de ce que j'ai vu dans les villages africains que dans les élevages intensifs en France. Dans les villages africains, j'ai été vachement surpris, et d'ailleurs j'ai demandé aux gens avec qui on était sur place, mais à qui ils sont tous ces cochons qui sont sur la route, tous ces poulets qui se baladent dans le village, etc. Ils sont à qui ? En fait, ils sont à des familles, mais qui les laissent évoluer librement parce que les animaux reviennent de toute façon pour la nourriture. Et donc, ces animaux vivent dans des conditions bien meilleures que nos cochons, que nos poules qui sont entassés par dizaines, voire centaines de milliers dans des hangars. Et donc, on n'a aucune leçon, nous, les Français, à donner aux pays d'Afrique sur la manière dont ils traitent leurs animaux, parce que c'est souvent une manière plus respectueuse de l'animal, parce qu'ils vivent au quotidien avec ces animaux et que ces animaux sont une richesse pour eux. Et donc, ils les respectent beaucoup plus que la manière dont on respecte les animaux qui sont dans des élevages intensifs en France et qui ne sont considérés que comme de la marchandise et absolument pas comme une richesse pour qui que ce soit.
Sur le continent africain, nous l'avons dit, la consommation de viande est la plus faible du monde. Dans les villes, le choix se résume souvent à de la viande de brousse ou à de la viande importée, car l'élevage intensif est encore peu développé. Dans le sud-ouest du Bénin, dans le village de Lokossa, près de la frontière avec le Togo, Michel Babadjidé expérimente, lui, une technique traditionnelle d'élevage dans sa maison du paysan. Charlie Dupiot est allé le rencontrer.
Ici, on est à la maison du paysan, qui offre une nouvelle perspective aux paysans pauvres du Bénin et d'Afrique.
Et cet endroit existe depuis combien de temps ?
On est ici depuis 1998. La maison du paysan, au fait, c'est aussi un centre de formation, c'est un centre d'expérimentation, c'est un concept qui a été validé par l'Institut national des recherches agricoles en 2012, après plusieurs polémiques. C'est un centre, au fait, révolutionnaire qui n'utilise pas les mêmes normes que les autres. Donc ici, nous élevons 14 espèces ensemble. Contre les prescriptions universitaires classiques, et mais dans une synergie parfaite où les rejets des autres constituent les ressources, les matières premières des uns. Quoi. Et on élève poulet, pintade, canard, dindon, pigeon, cabri, mouton.
Tous ensemble.
Oui, tous ensemble.
On va voir à l'intérieur ?
On va regarder.
Alors là, pour bien décrire où on est en dessous d'un hangar. Assez grand, dans lequel on a plein d'animaux, tous ensemble. Des moutons, des lapins dans des cages surélevées, des canetons.
Tu vois, ils vont tous se rapprocher.
Je peux avoir un peu de maïs ?
On va les appeler ici. Si.
C'est vous qui faites ce bruit ?
Oui. C'est une façon de les appeler. Mais ils sont rassasiés, hein, ils ont déjà mangé.
Distribuer du maïs.
Oui.
Ça les a tous rassemblés près de nous. Il y en a combien des animaux en dessous, vous savez ?
Nous avons ici une centaine de moutons et de cabris, autour de 70 porcs. On a 320 lapins présents. On a. Et ici, vous voyez, on a tout. On a les moutons, les poulets qui ramassent ce que les lapins ont gaspillé.
Les lapins sont dans des cages en fait surélevées.
Sont dans des cages surélevées. En dessous, il y a un trou qui récupère tout ce qui est crotte et que nous ramenons au village des paysans pour faire de la production végétale. Quoi. Ici, nous avons une cinquantaine de lapines et qui nous permet de faire autour de 1800 lapins par an. Ici, c'est la maternité des lapins. Vous voyez ici, elle a fait ses petits tranquillement.
Là, on a 1, 2, 3, 4, 5.
Ça fait 5.
Les petits lapins.
Oui.
Ils sont dans une petite boîte.
Oui.
Vous les laissez là pendant combien de temps ? Cage qui est appelée la maternité ?
Ils restent dans la caisse pendant 10 ou 12 jours. Après, ils sortent, ils viennent dans la cage. Dans la cage, ils font un mois. on fait le sevrage, on les mène dans l'autre groupe de l'engraissement. Quoi. Nous avons ici le mangeoir des poulets avec un dispositif qui ne permet pas aux moutons de manger à l'intérieur.
Quoi. Ah oui, parce que là, en fait, c'est par terre, du coup, et seuls peuvent y accéder les canetons.
Ça accède. Mais avec ce
les moutons ne peuvent pas faire rentrer leur tête dedans.
Les moutons ont leur mangeoir à part. Les poulets mangent leur nourriture aussi à part. Là, vous allez voir les porcs.
On sort du hangar, d'entrée. On est en extérieur.
C'est une truie, elle a 90-100 kilos, c'est sa première gestation. Et en Afrique, à l'âge adulte, elle ne dépasse pas 40-50 kilos.
Donc elle est plus grosse celle-là que d'autres.
Oui. Mais ici, on a pris les mêmes porcs, on a amélioré leur alimentation. Il y en a qui dépassent 140 kilos ici.
Vous avez fait ça sans les gaver? Comment ça se fait qu'elles soient aussi gros?
Regardez ça, regardez. Elles n'ont rien à envier aux porcs importés. Elles font des fois jusqu'à 17 petits à la fois.
Comment vous les nourrissez, tous ces animaux?
On les nourrit à une provende que nous préparons nous-mêmes. Et c'est un mélange de son de riz, de maïs broyé, de soja torréfié, de tourteau de palmiste et de sel.
Et vous cultivez les céréales vous-même?
Bon, actuellement, on n'en cultive pas, mais on achète chez les paysans qui cultivent ça. Le soja est cultivé ici. C'est tout un réveil agro-pastoral que nous opérons ici. Les gens dans leur village ne pensent pas encore que la terre peut les nourrir. Vous voyez, ils sont arrivés à ce niveau-là. Mais nous essayons de les rencontrer, de leur démontrer que la pauvreté ne peut pas être villageoise, quoi. On ne peut pas vivre pauvre au village. C'est le point de départ de l'alimentation. Ceux qui ont un peu de moyens, ils peuvent s'acheter de l'engrais. Mais ceux qui n'en ont pas du tout, les 90% de ces populations agricoles n'ont même pas l'argent pour manger. Quand vous n'avez pas pour manger chaque jour, vous ne pouvez même pas investir. Et la surexploitation des animaux a amené les animaux à réduire leur masse corporelle pour s'adapter à la misère que le paysan lui a imposée. Vous voyez, du coup, nos chèvres sont devenues petites, nos poulets sont devenus plus petits, nos cabris sont devenus petits, les porcs sont devenus petits parce qu'ils ne trouvent pas à manger. Et donc, pour restaurer cet univers-là, il faut créer une abondance alimentaire. C'est juste ce que nous faisons ici.
Michel Babadidé, vous êtes vétérinaire de formation. Comment expliquer, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours? Comment vous en êtes arrivé là finalement?
Oui, j'ai étudié à l'Académie agro-pastorale de l'Ukraine à Kiev. Et j'ai eu mon doctorat en 1993. Je suis rentré au pays. On a opéré d'abord le gel de recrutement à la fonction publique au Bénin en 1988. Il n'y avait plus de job étatique, donc je suis rentré dans. J'ai décidé de devenir fermier. Et c'est là où j'ai commencé par mettre en pratique ce qu'on m'enseignait là-bas dans la modernité. Mais comme l'environnement n'est pas le même, toutes les normes de modernité que j'utilisais dans l'environnement traditionnel ne donnaient pas de résultats. C'est là où j'ai commencé par remettre en cause toutes mes certitudes, toutes mes convictions pour me créer de nouvelles convictions et cette fois-ci adapter à l'environnement local. La survie du vétérinaire passe par la survie des éleveurs. C'est là où il faut leur trouver des solutions adaptées.
Vous êtes devenu éleveur, finalement.
Oui, je suis devenu fermier de profession. Je n'ai pas le choix, parce que si je ne leur montre pas l'exemple, ils ne pourront pas solliciter mes prestations. Donc c'est là où ici, c'est devenu un centre de formation. Oui, par rapport au nombre d'animaux, ici, c'est 700 mètres carrés. Mais nous avons, nous élevons par an 1800 lapins. Vous voyez, nous avons actuellement autour de 100 petits ruminants qui naissent par an. On a une centaine de porcs selets qui naissent à partir de citruits que nous avons ici.
En fait, il faut que ce que vous fassiez ici soit facilement réplicable.
Réplicable chez eux, dans leur environnement, avec leurs ressources.
Peut-être qu'on peut décrire justement les porcheries pour effectivement donner une image. En fait, ce sont comme des boxes.
C'est des compilations de briques. L'intérieur est cimenté, est dallé avec une mangeoire. Ici, ça fait 3 mètres sur 2. Avant, on était parti de ces petits box-là qui faisaient 1,5 mètre sur 2 parce que les porcs, ils avaient une petite taille. Mais avec leur taille qui a augmenté, on est obligé de passer à ces mesures-là. Je crois qu'ils se sentent très bien. Vous voyez, le poulet Et dedans, dans les élevages, aucun porc n'admet un poulet à l'intérieur. Hein. Il est déjà croqué, vif. Mais ici, tout le monde vit dans cette synergie-là parce que chacun reçoit ce qu'il lui faut pour mieux vivre. Quoi. Ici, nous prônons le mieux-être animal, nous prônons l'élevage heureux, où l'animal doit jouir d'une bonne humeur toute sa vie, afin que les hommes qui les mangent conservent leur bonne humeur.
On vous a critiqué notamment pour le fait de mélanger autant d'espèces animales ensemble. Ouais. Comment expliquer ces critiques et qu'est-ce que vous répondez à ça?
Les universitaires, ils ont raison de critiquer parce que celui qui n'est pas sorti pour aller manger la sauce du voisin va dire que c'est sa maman qui prépare la meilleure sauce. Hein. Ils n'ont que ça. Ils sont des cadrés. C'est des universitaires cadrés. Moi, mon échappement m'a permis de voir d'autres choses. Ils m'ont critiqué, ils m'ont vilipendé, mais j'ai soutenu mon système devant l'Institut national des recherches agricoles qui a validé le concept depuis 2012. Vous voyez, en Europe, on a séparé les espèces animales depuis 200 ans. Et du fait de cette séparation qui répond aux besoins de la modernité et de l'industrialisation, les poules ayant été séparées des pintades, des dindons et des canards, les microbes aussi se sont spécialisés par rapport à ces espèces-là. Et vous voyez donc le jour où on va remettre ces espèces ensemble, il y aura l'hécatombe parce que les microbes des poulets seront étrangers aux pintades. Les microbes des pintades seront étrangers aux poulets et les deux vont faire la maladie et en périr. Donc on ne doit pas mettre les espèces ensemble là-bas, dans les conditions de là-bas. Or en Afrique, depuis l'origine des temps, on n'a jamais séparé les espèces animales dans les villages. Quoi. Poulet, pintade, dindon, cabré, chien, chat ont toujours dormi dans la même chambre que l'homme. Vous voyez donc, du point de vue microbiologique, du point de vue virologique, du point de vue parasitologique, ils ne sont plus dangereux l'un pour l'autre. Ici, les poules sont de très très bonnes couveuses, mais de mauvaises pondeuses. Au même moment, la pintade est une pondeuse exceptionnelle. Mais une mauvaise couveuse. Vous voyez donc que si on ne met pas les deux ensemble dans un environnement qui est en retard technologique, on ne peut pas développer la production des poules.
Mais est-ce que l'une va couver les œufs de l'autre?
Oui, les poules ici, toujours ont couvé les œufs des pintades. Toutes les pintades que vous allez voir dans les villages, leurs œufs ont été couvés par les poules. Vous voyez cette synergie, les paysans n'ont jamais arrêté ça. Et parce que c'est profitable. Et c'est ces éléments que moi j'ai rassemblés ici pour que le paysan sache que c'est faisable. C'est faisable.
Que faites-vous de tous les animaux ici, quand vous les vendez?
Nous les vendons sans panneau publicitaire. Les gens savent qu'il y a de la bonne viande ici. Vous savez, ici on dit « nul n'ignore là où pourrit l'éléphant ». Quand l'éléphant pourrit quelque part, l'odeur envahit tout le village. La maison du paysan aujourd'hui, si vous voulez manger bien, si vous voulez manger un poulet bien élevé, un cabri bien élevé, un porc bien élevé, c'est la maison du paysan qui constitue la référence.
Et comment vous, personnellement, vous décririez votre rapport aux animaux, vous qui êtes vétérinaire de formation, éleveur, qu'est-ce qu'ils représentent pour vous?
D'abord, aimer veut dire accepter son odeur. Et aimer, ça veut dire « nyiwanoué », quoi. Je t'aime, ça veut dire j'ai accepté ton odeur. Quoi.
C'est vraiment comme ça qu'on dit.
Oui, que ça s'exprime ici. Hein, mais tant que l'amour sera là, même les mauvaises odeurs, elles sont supportables.
Ça fonctionne bien avec les animaux d'ici.
Voilà. Et je suis content quand je suis ici. Je suis à l'aise, je suis aux anges quand je suis avec les animaux. Ma vie, il me semble qu'elle est faite. Même depuis mon enfance, j'étais le petit éleveur de la maison.
Vos parents étaient éleveurs?
Non, mon parent était enseignant. Mais ce qui nous a aidé, c'est qu'il était un enseignant formidable. Et chaque fois que les gens finissaient les examens, les parents nous apportaient les cabris, les porcs, les cabris, les lapins, les poulets, les canards. Et automatiquement, c'était moi qui m'en occupais. Et je comprends mieux les animaux, ils me comprennent mieux que les hommes. Et ils vous reconnaissent d'autant mieux que vous les servez. Vous voyez, quand vous êtes leur serviteur, ils vous adoptent comme maître, tout de suite comme grand roi. Quoi. Donc je suis le roi ici. Voilà, c'est toute une folie que nous essayons de développer ici pour que vraiment ça puisse envahir toute l'Afrique. Mais mon oignon n'a même tout senti, mais tu t'es beau, oison. N'a pas ni oua te aimé, n'a même ni non tout bel doué, mais nous bébé ou mini jodo.
Parmi les mesures défendues par le référendum d'initiative populaire pour les animaux, il y a l'interdiction de la chasse à courre et de certaines chasses traditionnelles particulièrement cruelles pour les oiseaux, qui sont d'ailleurs interdites chez nos voisins européens, qui consistent par exemple à les coller avec de la glu, à les étrangler ou à les écraser. Bonjour Serge Bahuchet.
Bonjour.
Vous êtes professeur au Muséum d'Histoire Naturelle, vous êtes ethno-écologue, c'est-à-dire que vous étudiez les relations des sociétés humaines avec leur environnement. Alors, soyons clairs, les chasses que cette initiative veut voir interdire sont des chasses de loisirs, il n'y a pas d'enjeu alimentaire.
Exactement, c'est des chasses qui, effectivement, aussi bien la chasse à courre que les autres chasses traditionnelles, sont des chasses qui ont une grande ancienneté dans notre pays, qui remontent à plusieurs siècles de pratiques, mais qui sont dorénavant des chasses, disons plutôt de loisirs, ou des chasses identitaires caractéristiques d'une région, mais qui ont une importance sociale éventuelle, mais qui n'ont pas de conséquences alimentaires marquées.
Oui, donc là, ça n'a rien à voir avec ce que vous évoquez dans le livre « Nous et les animaux » publié aux éditions Les Petits Matins, où vous signez un article intitulé « Hommes et animaux dans la forêt d'Afrique centrale, l'importance de la chasse ordinaire ». Une chasse à la viande de brousse, donc, dans les forêts tropicales, qui est en pleine expansion aujourd'hui.
Est en pleine expansion aujourd'hui, et en effet, c'est une chasse qui est problématique du point de vue de la conservation de la faune, du point de vue de la conservation de la nature, mais qui doit aussi être insérée dans un contexte de vie quotidienne des populations de toutes les régions forestières d'Afrique centrale.
Alors, quand vous dites de vie quotidienne, c'est-à-dire que les populations des forêts d'Afrique centrale dépendent de cette chasse pour se nourrir étroitement?
Alors, il y a plusieurs enjeux. Il y a effectivement qu'une grande partie des groupes ruraux, des communautés locales, mangent ordinairement de la viande de brousse, ce qu'on appelle la viande de brousse, c'est-à-dire de la viande d'animaux sauvages qu'ils vont obtenir par leurs activités, pour le coup, traditionnelles, avec des pratiques de chasse collective ou de piégeage ou même d'utilisation du fusil, mais qui sont tout à fait classiques dans leur région. Mais il y a aussi un enjeu très important qui est que ces mêmes populations obtiennent des ressources financières par la commercialisation de la viande à destination des régions extérieures à la forêt.
Alors, une commercialisation de la viande qui est née en partie, écrivez-vous, à cause de la colonisation.
Alors, pendant la période coloniale, il y a eu des demandes de produits de faune par les sociétés qu'on appelait concessionnaires, donc jusqu'à l'indépendance des pays d'Afrique, qui étaient des sociétés qui exploitaient les ressources locales. Dans le cas de l'Afrique centrale, il y avait le caoutchouc, mais il y a eu aussi avant ça la collecte de l'ivoire au début du XXe siècle, ensuite au milieu du XXe siècle la collecte de cuir d'antilope, et qui a entraîné bien entendu des transformations économiques des communautés locales qui se sont mises à produire ou à travailler pour les colons.
Il y a aussi la culture du cacao et du café qui se sont implantées à ce moment-là et qui ont fragilisé du coup les populations locales en créant des dépendances à des ressources qui elles-mêmes dépendent désormais des cours mondiaux.
La fragilisation dont vous parlez, elle est apparue à la fin du XXe siècle avec les cours mondiaux, et là il y a eu vraiment des énormes désordres de financement qui ont entraîné une perte de ressources des communautés locales. Alors effectivement, ce qui s'était passé, c'était que pendant cette période de mise en place des cultures industrielles destinées à l'exportation, café, cacao, selon les climats, les paysans se sont mis à dépendre des ressources financières de ces productions dans un contexte de dépendance monétaire aux États coloniaux d'abord et puis aux États modernes ensuite. Alors il s'est passé vers la fin du XXe siècle des gros désordres dans la commercialisation de ces produits, en partie aussi par le fait que les États ont arrêté de donner des cours fixes au kilo de café ou au kilo de cacao, et les cours sont devenus tributaires de marchés internationaux, et il y a eu des énormes pertes de revenus de la part des paysans. Et ça nous ramène à notre sujet, parce que ça a eu des conséquences extrêmement directes sur les activités des paysans. Et ça, moi, j'ai pu le vivre, puisqu'à cette époque-là, je travaillais au Cameroun, donc à la fin des années 80, début des années 90, et on a vu la chute des cours du cacao, et on a vu comment les producteurs de cacao du Cameroun ont abandonné leurs plantations de cacao, qui étaient quelquefois de 50 ans ou 60 ans d'âge, les ont abandonnées et les jeunes gens se sont mis à chasser le gibier pour le vendre, parce que c'était la seule ressource qu'ils avaient. Et pourquoi ils avaient besoin de ces ressources, que ce soit du cacao ou de la viande ou de n'importe quoi d'autre? Parce qu'il faut payer les impôts, il faut payer l'école, il faut payer la médecine, il faut payer des habits. Enfin, tout se paye maintenant, aussi bien en Afrique centrale que chez nous. Et donc, tout ça a entraîné une dépendance à des ressources financières. Et donc, quand on cherche à limiter la chasse, parce qu'effectivement, elle a un impact sur la faune sur laquelle on va revenir après, mais on ne peut le faire que si on procure à ces paysans des ressources alternatives. Sinon, ça ne sert à rien.
Est-ce qu'on peut évaluer aujourd'hui l'impact réel du braconnage sur la biodiversité en Afrique centrale ?
Alors, c'est un travail que s'efforcent de faire les biologistes, les écologues. C'est très compliqué parce qu'il faut aller créer les données par soi-même. Donc, un des moyens de le faire, c'est d'aller surveiller les marchés ou les entrées des villes pour voir le tonnage de viande qui circule, d'essayer de voir qu'est-ce qui passe par les véhicules ou autres. Les États n'ont pas les moyens de surveiller tout ça et de faire des statistiques. C'est assez difficile, mais c'est une grosse préoccupation pour les naturalistes, pour les biologistes. Alors à ça est lié un autre problème de connaissance scientifique, c'est qu'en fait, on ne connaît pas l'état de la faune avant la chasse, avant l'exportation de viande, et on ne connaît pas non plus très bien le taux de reproduction de ces animaux. C'est-à-dire qu'on ne sait pas jusqu'à quel point on peut les prélever. Le problème de la forêt, si on peut comparer avec d'autres régions d'Afrique, en particulier des savanes, en savane, c'est des grands troupeaux d'animaux qu'on peut relativement facilement compter avec des petits avions, des drones ou à la jumelle. La forêt, on ne voit rien du tout. Les animaux ne sont jamais des grands troupeaux, c'est tout le temps des petits animaux en tout petits groupes ou isolés. Donc, on a une connaissance extrêmement difficile à atteindre de la quantité de faune qu'il y a dans ces forêts.
Et même si les traditions alimentaires en Afrique centrale, pour rester sur ce périmètre, ne sont pas extrêmement carnées, on mange quand même un peu de viande, il n'y a pas du tout d'élevage. Donc, en gros, dans les villes, il y a deux choix. Soit c'est la viande de brousse, soit c'est la viande importée à bas coût d'Europe ou d'Asie.
Alors, c'est ça l'élément le plus important. Les régimes forestiers, donc les paysans de la forêt, mangent de la viande ou du poisson. Ce n'est pas du tout des régimes végétariens. Et la base protéique de l'alimentation, elle vient soit de la pêche et puis de la chasse. Mais ce qu'on sait, c'est que la chasse locale d'approvisionnement domestique, elle concerne qu'extrêmement peu d'espèces, qui sont des espèces qui se reproduisent facilement. Donc, c'est des porcs-épics, plusieurs gros rongeurs, des petites antilopes, et quelques singes arboricoles, des cercopithèques. Ça, c'est la base de la chasse ordinaire des populations d'Afrique centrale. Après, il y a et ça vient de la forêt. L'agriculture, elle produit essentiellement la base calorique, c'est-à-dire les féculents, le manioc, les bananes, le maïs, les ignames. Donc, ça veut dire que la part quantitative de l'alimentation, elle vient des champs, et la part qualitative, elle vient de la forêt.
Et alors, globalement, en Afrique centrale, le sujet d'approvisionnement des villes en protéines animales, c'est un sujet complexe.
C'est un sujet complexe, mais c'est un sujet fondamental. Si on veut discuter de cette histoire de la protection de la faune, la protection de la forêt, il faut prendre le problème à l'envers. Il faut s'intéresser non pas à ce que les paysans de forêt font, mais à ce que les habitants des villes font. La population d'Afrique centrale a explosé et les villes en Afrique ont aussi explosé. J'ai regardé les chiffres au niveau des nations entre le Cameroun, Congo, Gabon, République centrafricaine, République du Congo. La population a presque triplé entre 1980 et maintenant, 2020. Donc, c'est des pays avec une assez faible densité de population. Mais maintenant, ce sont des pays où il y a entre 50 et 80% de la population qui vit dans les villes. Donc, en fait, on voit bien un mouvement très important qui est une émigration rurale des paysans de la forêt qui vont habiter dans les villes et les villes les explosent. Et quand on a les grandes villes d'Afrique centrale, c'est des villes qui ont toutes plus de 1 million d'habitants. Donc, c'est des zones d'une grande densité de population et avec un très grand nombre d'habitats. Donc, ça pose des problèmes d'aménagement urbain, de salubrité publique et bien entendu d'approvisionnement.
Merci beaucoup, Serge Bahuchet.
Je vous en prie, merci de vos questions.
So blue without you, girl. I need your love.
écoutez, c'est pas du vent sur RFI. Nous parlons de notre relation au monde animal aujourd'hui à l'occasion du lancement en France d'un référendum d'initiative partagée sur la cause animale qui remporte un vif succès. L'objectif de ce référendum est de faire évoluer la loi pour interdire l'élevage en cage, l'élevage à fourrure, la chasse à courre, les spectacles avec des animaux sauvages et obtenir la fin de l'élevage intensif et de l'expérimentation animale lorsqu'il existe une méthode alternative. Mais plus globalement, où en est la législation sur le droit ? Mais plus globalement, où en est la législation sur le droit des animaux au niveau mondial ? Pour en parler, nous sommes en ligne avec Sabine Brel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en droit international des animaux, cofondatrice du projet Global Animal Law que vous avez fondé en 2014 et vous avez publié Le droit du bien-être animal dans le monde aux éditions L'Harmattan. Alors tout d'abord, petit focus sur la France puisque ce référendum a lieu en France. Quelle est la situation législative de la France par rapport aux autres pays ? Est-ce qu'on est en avance ? Est-ce qu'on est en retard ?
Alors, merci beaucoup pour cette question. J'irai droit au but. La France n'est pas la mieux placée dans le monde au niveau de la protection des animaux. Et tant mieux, ce qui nous montre qu'on a encore plein de belles choses à faire pour faire progresser cette protection. À savoir que par rapport aux autres pays européens, même en regardant nos proches voisins, on peut voir que la Suisse, par exemple, la Belgique, sont des pays bien plus protecteurs. Et même l'Espagne qui commence de plus en plus à interdire la corrida, comme en Catalogne depuis 2010. Il y a également des pays à l'extérieur de l'Europe, comme l'Inde ou le Brésil, qui ont adopté des dispositions constitutionnelles pour protéger les animaux. Et bien sûr, avec ce référendum d'initiative partagée, de belles propositions de progrès en perspective, par rapport auquel on peut continuer à discuter davantage, sachant que par rapport à chaque proposition des 6 mesures proposées, eh bien, nous avons déjà des exemples, on va dire, dans d'autres pays, des exemples de droits comparés qui nous montrent que ce genre d'avancée est possible et souhaitable, bien entendu, pour mieux protéger le bien-être des animaux.
Alors aujourd'hui, pour simplifier, dans la loi française, les animaux non humains, comme on dit, ont des droits similaires à ceux d'un meuble, même si depuis 2015, il y a eu des avancées.
Oui et non, c'est-à-dire que depuis 2015, le Code civil reconnaît le caractère sensible des animaux, ce qui les distingue d'un meuble, on va dire, en tant qu'objet inanimé. Mais pour autant, effectivement, les animaux ne sont pas totalement extraits pour l'instant de la catégorie des biens, puisqu'ils sont toujours soumis à ce régime juridiquement. C'est-à-dire que le régime de la propriété, donc de l'usus fructus abusus, comme on dit en latin, donc le fait d'utiliser les animaux, d'en tirer leurs fruits, donc leurs fruits, ça peut être leur lait, leurs œufs, leur peau, ou bien d'en abuser, c'est-à-dire la mise à mort, qui est conditionnée par le droit français, mais qui n'est pas interdite dans l'absolu, comme ce serait le cas pour un être humain. Bien entendu, on en est encore très loin.
Et alors, que faire face aux arguments économiques et culturels ? Parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'emplois derrière ce rapport aux animaux, que ce soit dans l'élevage, dans tout ce qui concerne le commerce des animaux, et aussi par rapport aux arguments culturels qui disent que voilà, c'est dans nos traditions de consommer de la viande, d'élever des animaux, de les abattre. Comment est-ce qu'on peut encadrer cela ?
Alors ça, c'est une excellente question parce que effectivement, les arguments économiques et culturels sont souvent mis en avant comme limite, voire obstacle absolu aux propositions de lois protectrices des animaux. Alors, on commence à voir, bien entendu, des contre-exemples à ces arguments-là. Par exemple, on va dire, en ce qui concerne les différentes traditions, on voit bien que là où la corrida, par exemple, était une pratique traditionnelle, Elle est de plus en plus interdite dans de plus en plus de pays hispaniques, que ce soit en Amérique latine ou en Catalogne en 2010.
Ça, c'est pour la tradition, mais pour les arguments économiques.
On a aussi plusieurs exemples, à commencer par exemple pour le foie gras en Israël. La Cour suprême d'Israël a décidé qu'il était tout à fait légal d'interdire cette pratique sur la base des arguments d'éthique animale en 2003, en disant que la non-cruauté envers les animaux devait être un argument qui prime sur la production du foie gras, qui à l'époque était assez rentable en Israël, puisque c'était le 4e pays producteur de foie gras. Donc c'était une pratique assez rentable, ou encore la production de fourrure en élevage aux Pays-Bas, qui a été interdite en 2012.
Donc quand il y a une volonté politique, c'est possible. Et alors pour conclure, vous avez rédigé avec un comité d'experts, hein, pas seul, une convention des Nations Unies sur la santé et la protection des animaux. Et aujourd'hui, ben, vous êtes un peu en campagne pour la faire adopter ben, au niveau des Nations Unies.
Tout à fait. Alors, merci de soulever ce point. Donc, cette Convention des Nations Unies sur la santé et la protection des animaux est importante non seulement puisqu'il n'existe pas encore aujourd'hui de protection globale des animaux, et ce, dans tous les pays du monde, puisque aujourd'hui, comme on l'a relevé juste avant, même si plusieurs pays, on va dire la majorité des pays, ont adopté des lois de protection, ce ne sont pas forcément des lois qui sont forcément très protectrices non plus. Et il y a encore plusieurs pays, on va dire un tiers des pays, qui n'ont encore adopté aucune loi de protection, même minimale, des animaux. D'où l'intérêt d'avoir quand même une couverture universelle pour avoir une protection consensuelle, hein, sur le bien-être des animaux, qui commence à devenir un sujet de plus en plus présent au niveau mondial, en faisant également les liens avec la santé des animaux, la santé environnementale, la santé humaine. On l'a vu dernièrement avec le contexte du Covid, qui a clairement fait le lien entre la santé animale et la santé humaine, et ces interactions, donc, qui ne sont pas négligeables aujourd'hui, qui sont même très concrètes, d'où l'importance aussi d'aller vers, on va dire, une reconnaissance de cette interdépendance du vivant entre les animaux, les hommes, l'environnement, et d'aller vers une protection globale aussi de la santé des animaux, des humains, de l'environnement et du bien-être global également.
Une convention des Nations Unies sur la santé et la protection des animaux, donc peut-être bientôt en discussion à l'ONU. Merci Sabine Brel.
Merci beaucoup.
La viande sur la table.
Pour nous écrire,
la viande par terre,
c'est pas du vent.
La viande sur les étals.
@rfi.fr.
La viande.
Défendre les animaux, c'est souvent s'exposer à la moquerie et au déni, malgré la multiplication des études scientifiques qui démontrent à quel point les animaux non humains ne sont pas si différents de nous. Bonjour Aymeric Caron.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et écrivain engagé depuis longtemps dans la défense de la cause animale. Vos livres « Nostec » et « Antispéciste, réconcilier l'humain, l'animal, la nature » ont largement participé à sensibiliser à ces questions. Alors, tout d'abord, une question d'actualité. Que pensez-vous du référendum d'initiative partagée sur la cause animale qui vient d'être lancé ?
Bah, c'est évidemment une initiative que je ne peux que saluer parce que elle va dans le sens d'un progrès moral, un progrès moral qui concerne en tout premier lieu évidemment les animaux non humains. Et puis surtout, comme l'ont souligné les personnalités à l'initiative, ce référendum, en tout cas de cette tentative de référendum, c'est tout simplement un acte qui essaye d'aligner la démocratie sur un changement de société, un changement de mentalité, parce qu'il y a un décalage total aujourd'hui entre les aspérités des citoyens français et la loi. Les derniers sondages des dernières années disent bien qu'à une écrasante majorité, les Français ont pris conscience de la souffrance dans laquelle sont maintenus les animaux non humains de manière totalement injuste et qu'il y a pas mal de sujets, pas mal de domaines où on peut soulager cette souffrance. Et c'est ce qu'exprime extrêmement bien ce RIP. Et en disant, voilà, il y a 80%, entre 80, 85, 90% des Français qui veulent des réformes dans la chasse, dans l'élevage, dans l'expérimentation animale, etc. Donc finalement, ce référendum ne demande jamais qu'un respect de la démocratie, de la réalité démocratique. Donc je ne peux bien évidemment que saluer et encourager.
Alors dans le livre « Nous et les animaux » publié aux éditions Les Petits Matins, votre chapitre s'appelle « The times they are changing ». Alors, est-ce que vous pensez que les temps ont vraiment changé et sont plus favorables pour considérer notre rapport avec les animaux non humains ?
Je le crois vraiment pour l'avoir vécu, tout simplement. Vous avez eu la gentillesse de rappeler dans votre courte présentation que j'avais écrit des livres qui, en fait, ont aussi eu comme conséquence personnelle de m'exposer à l'opinion en expliquant que j'étais végétarien puis végane, en expliquant que je considérais qu'il fallait absolument que la question des droits animaux devienne une question centrale pour nous. Et lorsque j'ai commencé à avoir ce discours, c'était le premier livre Nostec est sorti il y a plus de 7 ans. Et Nostec, à l'époque, avait été accueilli, en effet, par un flot de moqueries. Et longtemps après ça, j'ai été identifié comme journaliste végétarien. Et je voyais bien que ça faisait rire. J'étais dans une émission au grand public à l'époque, en plus. Et on se moquait pas mal de moi, que ce soit dans les commentaires ou parfois même sur le plateau. Et tout ça a changé, tout ça a évolué. Il y a 10 ans, dire que vous étiez végétarien, donc que vous militiez pour les droits des animaux, que pour vous c'était une cause importante, primordiale, eh ben effectivement, ça vous exposait à la moquerie. C'est plus le cas aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord pour dire on va accorder des droits fondamentaux aux animaux, mais ça veut dire en revanche qu'aujourd'hui, très peu de gens oseraient affirmer que la souffrance d'un animal est complètement accessoire ou en tout cas qu'on n'a pas à s'en soucier plus que ça. Il y a eu un changement des mentalités, j'en suis absolument persuadé. D'ailleurs, un truc qui est très amusant, il y a 10 ans, lorsque je travaillais sur la question du végétarisme et que je préparais ce livre, lorsque moi j'allais dans un repas, j'étais le seul végétarien quasiment, parce qu'il y avait une assemblée. Et c'est moi qui devais me justifier. Le nombre de fois j'ai dû me justifier sur cette question-là. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez remarqué vous, mais quand vous faites un repas, eh ben vous allez constater que le nombre de gens qui ne mangent pas de viande ou qui ont diminué leur consommation de viande, eh bien, il est devenu très important, ce qui fait que celui qui continue aujourd'hui à manger de la viande comme si de rien n'était est devenu quasiment minoritaire. Et c'est souvent lui qui doit s'expliquer dans un repas. C'est une inversion des choses que j'ai vue qui m'a fasciné. Souvent maintenant, celui qui mange de la viande, c'est lui qui dit « oui, j'en mange encore, mais… » J'ai commencé à. Donc oui, il y a quelque chose qui évolue. En revanche, et d'où l'intérêt du RIB dont on parlait il y a quelques instants, en revanche, c'est vrai que les cadres légaux, eux, n'ont pas bougé d'un iota pour l'instant. Donc c'est là qu'il y a ce décalage.
Merci Aymeric Caron. Je rappelle le titre de votre livre, « La revanche de la nature, 27 leçons pour le monde d'après », publié chez Albin Michel. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous pour votre fidélité. Vous trouverez tous les liens vers les intervenants cités et vers le site du référendum d'initiative partagée sur la cause animale sur la page internet de notre émission. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux et à podcaster nos émissions sur vos plateformes préférées. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve la semaine prochaine, même planète, même heure.